Également, ce qu'on observe, c'est que surtout chez les jeunes adolescents, vraiment, hein, 15 ans à peu près, 13-15 ans, qui n'ont pas encore eu d'expérience sexuelle, eh bien, l'usage de cannabis, le fait qu'il émousse le sens critique, le fait qu'on entende moins à ce moment-là, on craigne moins que l'autre nous dise « mais c'est nul ce que tu racontes, c'est n'importe quoi », c'est la honte, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Ça tombe hein, dans les soirées shit, entre guillemets. On a moins envie d'agresser l'autre, de l'allumer, etc., de chercher des noises. Et donc, corrélativement, on se sent plus enclin à avoir une parole libre. Eh bien, ça permet donc à des adolescents qui n'ont pas encore d'expérience sexuelle, déjà de le dire sans honte aux autres adolescents, et puis également de faire part, par exemple, d'interrogations ou de fantasmes ou de rêveries à caractère sexuel, y compris par le biais indirect de blagues obscènes, si vous voulez. Donc ça sert à faire admettre, en quelque sorte, reconnaître par le groupe eh bien, ses propres hésitations, questions, représentations, fantasmes en matière de sexualité qui n'est pas encore vécue. Donc de ce point de vue-là, pourquoi pas ? La question qui se pose simplement, c'est qu'est-ce qu'il en reste une fois que la fête est finie, que l'ivresse est dissipée ? Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il a dit, de ce qu'il a recherché, du type de reconnaissance, d'approbation qu'il a cherché auprès des autres ? Est-ce que les autres se souviennent de ce qui a pu leur être confié et donc peuvent poursuivre la conversation ? C'est là toute la question. Donc voilà quelques exemples de consommation festive de cannabis. Ces consommations sont pas donc n'ont rien à voir avec un usage toxicomaniaque de produits. Elles sont complètement réversibles. Les adolescents disent bah, quand il n'y en a pas, eh bien, on ne fume pas, c'est tout. La question qu'on peut leur poser quand même, c'est vous est-il possible de faire la fête sans cannabis ? Et si on nous dit non, qu'il y a quelque chose de malaisé dans la réponse, là, on peut poser la question d'une difficulté à être en contact avec les autres d'un point de vue général. Et donc se dire que la consommation n'est peut-être pas seulement que festive hein, ou qu'il y a du mal-être là-dessous. Ensuite, existe des consommations de type régulière. Et là, c'est notre grande surprise à nous, professionnels de l'aide aux usagers de drogue, c'est que entre les toxicomanes au cannabis, il y en a quelques-uns, 3% des fumeurs de cannabis, c'est pas beaucoup, mais ils existent, il ne faut pas les nier. 3% sur 2 millions de personnes qui fument au moins occasionnellement, ça fait quand même 60 000 personnes. En termes de santé publique, ça vaut la peine de s'en occuper. Donc entre ceux-là et l'utilisateur festif du joint, il y a les consommateurs réguliers. Ceux-là débordent le cadre de la fête, fument régulièrement, et cet usage vient toujours connoter une accentuation du mal-être adolescent. Ces ados-là sont plus mal dans leur peau que les autres ados. Ça peut avoir toutes sortes de causes qui renvoient là au travail du psychologue et au cas par cas. C'est-à-dire que même si ces jeunes ne sont pas dans un lien de dépendance au produit, leur consommation est suffisamment régulière, ils leur font jouer un rôle qui n'est pas du tout festif ou pas seulement. Donc il y a une souffrance là-dessous dont ils cherchent à atténuer les effets sur eux-mêmes. Et ça vaut la peine d'avancer avec eux en termes de soutien psychologique. On peut dire que ce sont des jeunes qui reçoivent trop fortement les impressions du dedans comme celles du dehors. Tant ce qu'ils ressentent, qui peuvent les déstabiliser, je sais pas, par exemple des fantasmes homosexuels qui font douter de l'orientation du choix d'objet sexuel, ou bien alors des rêves qui dérangent, des obsessions, des impulsions qu'on n'arrive pas à nommer, ou bien alors ça peut être le fait d'être facilement blessé par l'opinion des autres, le regard des autres, ou le fait de démarrer au quart de tour dès que quelqu'un se moque. Et là, le point commun, les gens disent, bah, en fumant ça, on arrondit les angles du dedans comme du dehors, ça nous arrive moins fortement dans la tronche, en quelque sorte. Et là, ce qu'on voit, c'est que le cannabis régulier ne vise pas à escamoter, si vous voulez, quelque chose de l'ordre de la réalité de ce que la personne est amenée à vivre, mais à temporiser pour lui donner le temps de se familiariser. Parce que dans un premier temps, c'est trop dur à digérer, quoi. Ces choses qui montent soit du dedans ou bien alors qui arrivent du dehors. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que c'est ça, c'est pour donner du temps. Pour donner du temps au temps. Mais dans tous les cas, le psychologue travaille alors avec l'adolescent pour l'aider à trouver d'autres moyens que le recours régulier au cannabis, eh bien, pour pouvoir faire face de manière moins heurtée, moins écorchée vive à ce qui peut lui survenir du dedans comme au dehors. Et un travail avec les parents est tout à fait fructueux de ce point de vue-là, parce que ce qui fait qu'un adolescent va fumer régulièrement du cannabis, ça peut être entre autres le fait qu'il y a eu une révélation brutale au sein de la famille. Moi, j'ai eu plusieurs patients qui ont découvert, dont les parents leur ont dit d'un seul coup, alors qu'eux-mêmes étaient en pleine crise d'identité, qui suis-je, d'où je viens, où je vais, etc., qui apprenaient par exemple que leur maman avait été victime d'un abus sexuel au même âge, ou bien alors que leur père n'était pas leur père biologique. Enfin bref, des secrets de famille qui étaient alors révélés par l'entourage et qui, ma foi, ajoutaient, qui donnaient encore plus de boulot psychique à accomplir par l'adolescent. Et ce qu'il y a simplement, c'est que là, les adolescents demandaient en quelque sorte du temps pour pouvoir digérer des révélations impressionnantes. L'usage de cannabis servait alors d'extenseur temporel pour les aider un peu à digérer. Il faut dire que les secrets révélés à ce moment-là aussi étaient en eux-mêmes, en soi, digestes, si on peut dire, du fait qu'ils avaient les caractéristiques suivantes. Ils étaient faits par les parents eux-mêmes, les détenteurs du secret, non pas par un biais latéral. Ils étaient confirmés par le parent et aussi ne concernaient pas systématiquement la filiation du sujet. Donc, c'était moins déstabilisant en termes de crise identitaire. Et alors, le dernier type de rapport au cannabis, donc celui qui est encore le plus méconnu, c'est celui donc, des consommations toxicomaniaques de cannabis. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens toxicomanes au cannabis, tout comme il y a on pourrait dire des toxicos de l'alcool, les malades alcooliques, tout comme il y a des héroïnomanes. Ça existe, on en rencontre dans nos institutions. Donc pour eux, il ne s'agit pas de faire la fête ou bien alors d'utiliser de façon régulière mais réversible un produit pour digérer des choses un peu éprouvantes. Il s'agit de bétonner véritablement le plus souvent le souvenir accablant d'une chose qui s'est réellement produite. J'ai un cas princeps dont j'ai développé dans mon livre d'une dame qui avait été incestée par son père à l'âge de 12 ans, qui a vécu ensuite une adolescence effroyable parce qu'elle ne pouvait absolument pas partager tous ces jeux de séduction, de flirt, etc., à l'instar des autres adolescentes. Elle a développé, on pourrait dire, une allergie très forte aux hommes, frigidité, supportant même pas d'être touchée. Et les choses, elle n'a pu desserrer en quelque sorte, elle n'a pu soulever, si vous voulez, le couvercle du tombeau psychologique où elle avait enfoui le souvenir accablant de ce qui lui était arrivé, qu'en devenant toxicomane au cannabis, en faisant du cannabis, des effets du cannabis, on pourrait dire une protection, un filet à temps plein, qui joue alors deux rôles qui faisant appel chacun aux deux grands effets du cannabis, la sédation et l'amélioration de l'humeur. Par la sédation, il s'agissait de mettre un verrou supplémentaire à la porte, déjà doublement verrouillée, qui contenait l'espèce de caveau où gisait le souvenir malheureusement vivace de l'expérience qu'elle avait tenté d'enfouir, d'oublier à tout jamais. À savoir que son père avait abusé d'elle sexuellement. Mais simultanément, lorsqu'une personne est amenée à faire sécession d'une partie d'elle-même, de la sorte, cela entraîne un appauvrissement de la vie psychique, parce que c'est une partie de la personne qui est ainsi mise au placard ou au congélateur. Et là, les effets euphorisants du cannabis étaient compulsivement recherchés par cette patiente, pour tenter de pallier sur un mode sensoriel, on pourrait dire, toute une affectivité, et notamment la capacité à désirer, à aimer la vie, l'élan vital, qui s'était trouvé mis au tombeau, on pourrait dire. Donc on voit bien un exemple possible. Cet exemple témoigne donc que pour certaines personnes qui ont vécu des choses particulièrement épouvantables, les effets du cannabis peuvent être recherchés de manière addictive pour tenter d'assouplir, de rendre moins douloureux le rapport à soi-même et partant de là aux autres, quoi. Donc voilà pour les différents rapports possibles au cannabis. Je m'aperçois en fait qu'il est déjà presque moins 5. Enfin, je suis plutôt habitué à faire des interventions longues. Donc je voudrais passer la parole s'il y a des questions.
Des questions ?
Oui, il reste. C'est pas une question. C'est est-ce qu'il vous reste encore un peu de temps pour nous dire quelle est la place des parents Oui, il vous reste quelques minutes.
Oui, qu'est-ce que peuvent faire les parents Alors, je dirais qu'il n'y a pas de recette. Il y a plutôt des extrêmes à éviter. Le plus souvent, ce que l'on conseille aux parents qui apprennent qu'un enfant, leur enfant consomme du cannabis, c'est d'allier des réponses de fermeté éducative à des réponses d'ouverture. D'abord, nul n'est censé ignorer la loi. Quoi qu'on en pense, et y compris les professionnels ont leur idée sur la question, le cannabis demeure en France un produit dont la consommation est interdite par la loi. Et la simple consommation peut être punie, d'après les textes de loi, d'un an d'emprisonnement ferme et de 25 000 francs d'amende. Alors même si, dans la réalité, le législateur, par le biais de la garde des Sceaux, il y a 2 ans, a demandé au procureur de privilégier d'autres types de réponses que la condamnation, plutôt des réponses type ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique, donc dire à un jeune « on ne te poursuit pas, mais bon, tu vas consulter dans un centre spécialisé, etc. » pour, en quelque sorte, le judiciaire ouvre une porte vers le sanitaire. Alors, cet aspect-là, cet aspect d'interdiction du cannabis, les parents peuvent et même doivent s'en faire le relais, se désolidariser donc de la croyance selon laquelle on peut fumer librement du cannabis. Les parents peuvent refuser que l'argent de poche serve à acheter du cannabis et voire fermer partiellement ou totalement le robinet s'ils ne reçoivent pas de réponses vraiment crédibles de leur adolescent de ce point de vue-là. Ils peuvent également refuser que du cannabis soit stocké chez eux, parce que, y compris si l'adolescent est mineur, ils en sont légalement responsables, donc légalement responsables aussi de ce qui se trouve, dans leur domicile. À côté de ça, ils peuvent aussi, s'ils sont un petit peu instruits des effets du cannabis, et ça, il y a eu des gros efforts de santé publique, eh bien, essayer de discuter avec l'adolescent en disant « Mais est-ce que tu sais qu'il y a tel risque, tel risque, tel risque ?» Donc voilà, pour l'aspect, on pourrait dire, fermeté éducative et justification au nom de la loi, au nom des effets, ceci, cela. Et à côté de ça, dire « Bon, on croit savoir qu'on ne fume pas systématiquement, dans tous les cas, pour s'amuser. C'est pas seulement faire une expérience ponctuelle, c'est pas seulement fumer pour faire la fête. » On sait qu'on peut aussi fumer parce qu'on est mal dans sa peau. Et là, eh bien, on est là, on est disponible. Si tu as besoin de parler, plutôt que de te confier entre guillemets aux produits et aux effets qu'il aura sur toi dans une espèce de dialogue sensoriel où rien ne reste vraiment élucidé, où il manque des mots pour dire les choses, eh bien, nous, on peut en parler avec toi si tu as des soucis. Et si ça ne suffit pas ou si tu ne souhaites pas parler de difficultés avec nous, on peut faire une démarche pour que tu ailles rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Donc voilà très schématiquement, mais très, très simplement, l'attitude que l'on peut tenir. Alors, on peut aussi chercher à discuter avec le jeune de qu'est-ce que ça t'apporte, quelle est la fréquence de ta consommation, tout en lui disant qu'il ne s'agit pas alors de le fliquer, mais au nom d'un souci pour lui. C'est-à-dire de chercher à voir s'il s'amuse ou bien, pour rejoindre le point précédent, s'il s'agit du signe d'un mal-être. De lui dire aussi, mais si on sait bien qu'à ton âge, et d'ailleurs notre génération n'était pas différente, on a besoin de faire des choses plus ou moins étranges, farfelues, marginales, etc., prendre des risques, les conduites à risque à l'adolescence pour grandir, pour se démarquer des parents, mais est-ce que y a pas déjà suffisamment d'opportunités du côté des choses qui ne sont pas interdites par la loi. Dire si tu veux sauter l'élastique, je ne sais quoi, avoir des sensations fortes, etc., tu peux en avoir sans consommer un produit dont la consommation donc même est interdite par la loi, donc pouvant amener un certain nombre d'ennuis. Ça peut être quelque chose, un discours qui peut être retenu. Et moi, ce que je sens, c'est que les jeunes tiennent de moins en moins leurs parents pour des ringards hein, sur la question. Hein. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas dit ça. Et donc ça doit inciter les parents à ne pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, à verrouiller, à interdire là où c'est nécessaire, à faire preuve de fermeté, mais à ouvrir par ailleurs, parce que les représentations que les ados se font des représentations parentales du cannabis sont un peu moins méprisantes, si vous voulez, qu'auparavant. Mais ceci dit, gardez à l'esprit aussi que dans la plupart des cas, c'est un phénomène qui sera transitoire, dans 97% des cas. Par contre, si votre fils ou votre fille consomme de l'héroïne, Là, c'est d'emblée beaucoup plus sérieux. Ça nécessite, à mon avis, dans tous les cas, de se rendre dans un centre spécialisé parce qu'on consomme très rarement du cannabis pour s'amuser ou parce qu'on est un peu plus mal dans sa peau que d'ordinaire. C'est plus souvent parce qu'on a des difficultés telles qu'on a besoin d'essayer de couler une dalle de béton pour anesthésier tout ce qu'on ressent, quoi. Voilà quelques éléments de réponse. Je m'en excuse, bref, du fait que j'ai mal géré mon temps d'intervention.
Merci, monsieur. Vous pouvez rencontrer monsieur Haché sur son stand où il dédicacera son ouvrage.